voudrais partir d'un souvenir. C'est un souvenir qui a 42 ans, 2 mois et peut-être 15 jours. Je ne peux pas être plus précis. Je m'étais rendu, je crois que c'était rue de Seine, dans les locaux de la revue Change. J'avais rencontré Jean-Pierre Fay et Mitsurana, qui m'avaient dit de venir les voir dans ce local. Et j'ouvre, je pensais qu'il fallait sonner, pas du tout, il y avait une grande porte, je rentre. Rien n'était fermé, il n'y avait pas de code à l'époque. Je rentre dans les lieux, tout est vide. C'est noir et tout, je me dis, qu'est-ce que je viens faire là? Il n'y a personne. Et au fond, c'est un grand appartement au rez-de-chaussée, il y avait un local au fond qui était suite change. Et là, je vois une très faible lumière, très très faible. Je dis, il y a une veilleuse au moins, je rentre là-dedans. Puis un silence complet. Puis je vois cette lumière, c'est une toute petite, minuscule petite lampe. Et puis je vois quelqu'un dans le noir qui était en train de lire un livre. Et ce quelqu'un, j'ai reconnu tout de suite, mais même ne l'ayant jamais rencontré, c'était Jacques Roubaud. Et c'est mon premier souvenir, voilà. C'est-à-dire, tout d'un coup, quelqu'un qui était là sans être là, qui était peut-être en veille, qui attendait quelqu'un, on ne savait pas. Et j'ai dit bonjour, je suis très intimidé. Est-ce que Mitsu non, ils ne sont pas là, je ne sais pas, bon. Et je suis parti. On s'est retrouvés bien plus tard. Mais c'est un point de départ extrêmement étonnant. Et je me suis aperçu après que le thème de la lampe, la lumière, c'est très important, non ?
La lumière a tendance à s'affaiblir, à être plus loin, à être plus rare, à être plus souvent, être plus proche du souvenir que du réel. C'est normal. Il y a plus d'obscurité que de lumière.
Ça tient au monde ou ça tient...
Dans le monde. Et pour moi, oui.
Lumière, par exemple. Noir. Vert. Bouche fermée. S'ouvrant à la langue. Fenêtre. Réunion de craie. Sein. Puis bas. La main s'approche, pénètre. Écarte. Lèvres frayées. À genoux. Lampe, là. Mouillée. Regard empli de tout.
À la recherche de Jacques Roubaud. Christian Rosset. Lionel Quentin.
Claude Ollier parlait d'obscuration du monde.
Oui, oui.
Quelque chose que vous partagez, tous les deux ?
Tout à fait, oui. C'est vrai. Récemment, je pensais, dans la nuit précisément, avec seulement la lumière d'une lampe qui est à ma droite, et finalement, sans toujours l'allumer, en restant comme ça dans l'obscurité, je m'étais mis à réfléchir à un moment ou un autre, précisément à Claude Ollier. Claude Ollier, que j'ai lu donc il y a très longtemps, et je me suis dit que Claude Ollier a été happé, d'une certaine façon, par le nouveau roman. Hein, on a considéré qu'il était un des représentants du nouveau roman, et que je crois que ça a été pour lui plutôt catastrophique. Parce que, en fait, il n'avait pas tellement de choses à voir avec les autres. Et il avait sa ligne propre, qui était une ligne très originale, et qui aurait été beaucoup mieux identifié que si on ne l'avait pas mis comme un parmi les gens dits du nouveau roman.
Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il vaut mieux être solitaire ?
Ben, c'est-à-dire, lui, il était essentiellement solitaire et il était un solitaire pessimiste. C'est-à-dire que, bon, ben, on me dit souvent pessimiste, mais je crois que Claude Ollier, il était 70 fois plus pessimiste que moi.
Et 70 fois plus solitaire ou aussi solitaire ?
Et il était beaucoup, beaucoup plus solitaire. Ouais.
La Vitre, février 1993.
Pendant la nuit, sur les vitres, le gel avait saisi la buée. Je vois qu'il faisait nuit encore, 6h30, 7h. En hiver donc, dehors noir, sans détail, noir. La vitre couverte des dessins du gel à la buée. Sur la vitre la plus basse, à la gauche de la fenêtre, à hauteur du regard, dans la lumière. D'une ampoule électrique, de l'ampoule jaune. Jaune contre le noir intense, opaque, hivernal, la buée s'interposant. Pas une buée uniforme comme à la pluie, mais une gelée presque transparente au contraire, dessinant. Un lacis de dessin translucide, ayant de l'épaisseur, une petite épaisseur de gel, variable, et parce que d'épaisseur variable, dessinant sur la vitre, par ses variations minuscules, comme un réseau végétal, tout en nervure, une végétation de surface, une poignée de fougères plates, ou une fleur. De l'ongle, je grattais cette neige, cette fausse neige, ni blanche ni cotonneuse.
On peut faire une sorte de dessin sur la vitre, en grattant ce gel, et voir apparaître la nuit qui est derrière.
Oui, on dessine la nuit, en fait.
Voilà, on dessine la nuit, et évidemment, cette nuit, c'est la nuit de tout ce qui a disparu, tout ce qui est passé. Donc ça, c'est aussi une sorte de métaphore qui est introduite à l'idée que l'essentiel de la mémoire, c'est l'oubli.
L'essentiel de la mémoire, c'est l'oubli.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce qu'il faut se relire, alors ?
Oui, peut-être pour retarder ses effets. Je ne suis pas certain.
Mais la mémoire lointaine, celle par exemple de la guerre, avec cette histoire de gratter dans la nuit sur la vitre qui est peinte en noir pour que l'ennemi ne voit pas qu'il y a quelqu'un dans la maison et ne voit pas les lumières, c'est toujours une image précise dans la tête aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'un certain nombre, oui, un certain nombre de ces images ne disparaissent pas, je ne sais pas pourquoi, et elles sont toujours présentes, et ça dure un certain temps et ça se poursuit, ça continue. Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais il y a certaines de ces images qui demeurent.
Est-ce qu'elles reviennent comme des fantômes ?
Et qui reviennent.
Elles reviennent quand, la nuit, le jour ?
Elles ne sont pas nécessairement les mêmes, parce que chaque fois qu'une image de souvenir revient, elle est un souvenir d'elle-même, et par conséquent, elle est un souvenir d'elle-même qui nécessairement va être déformé, va être modifié, qui parfois retrouve quelque chose de bien parce que ouvrant à d'autres souvenirs qui, eux, avaient disparu dans la présentation précédente du souvenir au souvenir. Voilà. Ça donne un côté labyrinthique et en même temps parfois assez intéressant.
J'ai toujours, aussi loin que je remonte dans cette perception des choses, été attiré par la nuit prématinale. Je n'aime pas m'éveiller dans le jour. Il y a des nuits buissonnantes, traversées de lueurs, de lunes, de lampes, d'étoiles, d'obscures clartés, comme on lit dans un alexandrin aussi célèbre que banal, rendu banal, sinon ridicule, de toute l'admiration scolaire autrefois déversée sur lui. Il y a des nuits noires et blanches, noire et grise, mais surtout il y a des nuits entières, compactes, impénétrables, opposant au jaune des lampes, quelque chose comme leur propre rayonnement noir. Cette beauté du noir qui rend le monde incompréhensible et inexplicable, qui m'assure que le monde est et restera incompréhensible et inexplicable. Cette noirceur invariable à la vue, c'est le monde qui se retire en soi-même avec dédain, m'attire, me tient serré contre les vitres, sans bouger, regardant. Mais je ne veux pas regarder en aveugle. Et le noir, ce noir-là, extérieur, a besoin de la lumière pour être absolu comme je le désire, proche, touchant mes yeux, mais ne les recouvrant pas.
L'image intérieure que l'on a, l'image de mémoire que l'on a, elle n'est jamais immobile. On ne peut pas la fixer pendant très longtemps. Ce n'est pas une photographie, donc. Elle se déplace probablement plus vite que les images de cinéma. Et puis, elle ne travaille pas seule. Elle s'accompagne de beaucoup de choses qui font intervenir les autres sens et qui font intervenir aussi les émotions et la gestuelle. C'est-à-dire pas seulement ce qu'on reçoit comme sens, mais également la façon dont nous-mêmes on agit. Dans la première image, il y a le doigt sur la vitre. Je le sens pas vraiment, mais il est là. Mais là, il gratte le givre. Et donc, le résultat, c'est du froid. En revanche, le son a un rôle privilégié, en tout cas pour moi, bien sûr, je ne généralise pas, un rôle privilégié pour introduire au passé, comme introducteur du passé, comme effecteur de mémoire.
La chaise est une critique de l'arbre, plus intéressante que l'incendie de forêt.
Ah oui.
Poétique remarque, numéro 1991.
Ça a l'air intéressant.
Petit commentaire.
Je ne sais pas. Parce qu'une des caractéristiques de l'état dans lequel je suis, c'est que j'oublie quasiment instantanément à mesure tout ce qui se passe. Et donc, ça, je l'avais oublié.
Pour quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa vie à écrire, à travailler, à penser, à frayer des pistes sur le thème de la mémoire, c'est intéressant.
C'est tout à fait intéressant, ce qui fait que ça a amené mon beau-frère, qui est un excellent peintre, Pierre Gessler, quand je lui ai fait part de la difficulté que je rencontrais précisément parce que les choses disparaissaient à toute vitesse de ma tête. Il m'a dit, en somme, ce qui t'arrive, c'est une maladie professionnelle.
À mon âge, la mémoire n'est plus qu'un souvenir.
Ça c'est un autre Pierre que mon ami, que Pierre Gessler, c'est Pierre Luçon, qui a dit de manière très juste, oui, ma mémoire n'est plus qu'un souvenir.
Conclusion. Maintenant, quand mon temps fracturé se défait, ma vie a plusieurs chocs, chacun d'un bel effet, promettant de broyer vertèbres comme artères, je me livre à quelques réflexions salutaires sur cette activité qui fut, an après an, essentielle pour moi. Soit, dépôt de bilan. Je ne suis pas de ceux qui ont changé du monde, même très peu le cours, sur la machine ronde, qui plus tard jugera quand je ne serai plus l'ermite ornemental que poète je fus.
Il se trouve que je participe à un dernier numéro paru d'une revue auquel j'ai participé depuis sa fondation, qui est la revue fondée par Michel Deguy, Poésie, et je me suis dit que je choisirais cette occasion de notre bavardage pour dire, saluer le fait que Michel Deguy a réussi à faire paraître cette revue dans des difficultés de plus en plus énormes jusqu'à aujourd'hui, ou un numéro pareil.
Lecture d'un des poèmes dans cette revue.
Un exploit d'après Pierre Luçon. Quand tous les feux de la grande révolution éteints, sous les pavés on vit la plage, Lyon, blessé mais non vaincu, l'étudiant, fille ou mâle, se lança dans la lutte anti-mandarinale. son exploit le plus pur qui réchauffa le cœur de tous, poubelle sur la tête de Ricoeur. Fut du pur Clausewitz, admirez la logique. Qui voit bien l'ennemi ne craint pas la réplique. Le mandarin n'a pas de casque. Ce seul fait le distingue du CRS, non ? En effet.
Pour allier maintenant, je pense, le thème de la mémoire à celui de la méditation.
Méditation ou contemplation ? Essayer de se souvenir, oui. Essayer de restituer les moments du passé, par exemple du passé lointain, en s'arrêtant, en réfléchissant sur des images. C'est quelque chose qui nécessite une grande concentration, une réflexion relativement aiguë. Ce sont des techniques de méditation qui permettent d'avoir accès à ça, parce que c'est cette seule manière que l'on peut, sinon arrêter le mouvement du souvenir qui, si on le laisse aller, s'en va à peu près n'importe où, mais le ralentir, le fixer sur certains moments privilégiés, et surtout sur des séquences de moments. Les stratégies de méditation telles qu'elles ont été proposées à la Renaissance, qui étaient surtout des méditations religieuses, ces stratégies de méditation ressemblent énormément aux stratégies de mémoire que, au même moment, on développait dans les arts de la mémoire, qui étaient des manières de ralentir, de fixer, d'ordonner le fonctionnement naturel et désordonné des souvenirs.
Sonnet 8, gare Saint-Lazare. Il y a très longtemps, les trains de Bois-Colombes emportaient à minuit celle qu'alors j'aimais. Je brûlais de ses seins et de ses lèvres, mais, sale des pas perdus, régnait un froid de tombe. C'était le temps inquiet d'une époque inquiète. La longue marche avait à peine atteint ses buts. J'avais eu 18 ans et l'ombre de ses luttes pesait sur les amours qui enflammaient ma tête. C'est que mon amoureuse, plus qu'elle n'était mienne, était chinoise par son père. Monsieur T alors se préparait à secouer ses chaînes d'ici pour rallier la maoïste secte. Et je me voyais rebâtissant avec mademoiselle T les murailles de Chine. Peu de souvenirs. J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. J'ai peu de souvenirs du métro Buzenval. J'ai peu de souvenirs du métro Marx-Dormois. J'ai peu de souvenirs du métro Corvisart. J'ai peu de souvenirs du métro Corentin-Cariou. J'ai peu de souvenirs du métro Corentin-Selton. J'ai peu de souvenirs des mets trop Alexandre Dumas et Saint-Fargeau. Et de Javel, André Citroën, je ne me souviens guère, ni de Malakoff, Étienne Dau. Les. Peu, peu. Guerre, guerre. J'ai très peu de souvenirs de la station Philippe-Auguste, voyez-vous. Et pour couronner le tout, je n'ai vraiment aucun souvenir du métro Croix-Rouge. Ça ne m'étonne pas, cette station a fermé pendant la guerre et n'a jamais rouvert.
Où es-tu ? Qui ? Sous la lampe entourée de noir, je te dispose en deux dimensions. Du noir tombe sous les angles comme une poussière. Image sans épaisseur, voix sans épaisseur. La terre qui te frotte, le monde dont plus rien ne te sépare. Sous la lampe, dans la nuit, entourée de noir, contre la porte.
Si on représente les choses qui sont devant et derrière, ben, le derrière c'est la même dimension, c'est une dimension, vous avez une ligne, puis vous avancez vers l'avant et dans l'autre sens c'est vers l'arrière. Mais c'est pas comme ça dans la tête du tout. Parce que dans la tête, l'arrière vous le voyez pas, et si vous voulez vous le voir, vous retournez. Vous pouvez vous retourner intérieurement, et ce qui était devant devient derrière. Ce sont deux dimensions totalement indépendantes, en fait. C'est pareil pour le haut et pour le bas, et pour la droite et pour la gauche. Alors bien entendu, c'est assez difficile. Le monde extérieur vous impose fortement la distinction entre le haut et le bas. À cause de la gravité, c'est un certain mal, même si on peut le faire dans sa tête, à se trouver la tête en bas. En revanche, il y a des gens qui n'acquièrent jamais l'idée qu'il y a une seule dimension par rapport à laquelle on se situe à droite ou à gauche. Et c'est normal. Pour la mémoire et pour le fonctionnement interne du cerveau, il ne s'agit absolument pas de trois dimensions, mais de six. Non seulement de six d'ailleurs, mais de huit, parce qu'il y a le passé et le futur. Alors là, c'est très clair que le futur n'est pas la même dimension que le passé. Ce n'est pas deux pôles opposés dans une même dimension, ça ne se ressemble pas beaucoup. Et en fait, on ne peut avoir une quasi-idée du futur qu'en se plaçant dans un point virtuel qui est dans le futur et en le regardant comme passé, c'est-à-dire comme une autre dimension. C'est le temps de la langue qui nous donne ça, c'est le futur antérieur.
Un corps et son ombre partageaient un monde. L'ombre de l'ombre s'étendait sur le corps. Ce monde était la fusion des ombres possibles. Et l'ombre de toute partie de ce monde était elle-même fusion de ce monde et de lui seul. L'ombre, la fusion de l'ombre, garantissent la vie d'un monde. Quand l'ombre et l'ombre de l'ombre ne s'unissent plus en un monde, ce monde est mort.
Il faudrait de temps en temps traverser quelques frontières pour pouvoir sortir de cette obscurité galopante.
Oui. Moi, pour cette question assez importante et fondamentale, j'ai une position que j'ai adoptée, qui est la position du philosophe des États-Unis, David Lewis, qui est ce qu'on appelle le réalisme modal, c'est-à-dire que tout monde, comme le nôtre, ou comme un autre, tout monde qui n'a pas de contradiction logique à son existence, par exemple, il n'y a pas là, dans ce monde, des carrés qui sont des cercles, hein. Bon, alors si on élimine ces impossibilités, les impossibilités logiques, alors selon le réalisme modal, tout ça existe. Et il ajoute quelque chose qui est évidemment attristant, c'est que on ne peut pas y aller. On est dans un de ces mondes, mais on ne peut pas aller dans un autre alors qu'il existe. On sait qu'il existe et on voudrait bien y aller, hein. Bon, le voyage transmonde est impossible. Voilà.
Dans un drôle de temps, là, alors.
Pratiquement, on peut dire que tous les temps sont bizarres. C'est une chose bien connue.
Y a-t-il des temps plus bizarres que d'autres ?
Oui, il y a des temps extrêmement bizarres. Celui dans lequel nous sommes.
Théâtre du Rond-Point. Les poétiques de Jacques Roubaud.
Cette séance poético-musicale et musicalo-poétique comportera, après une courte introduction, 5 parties de poèmes qui seront annoncées à mesure comme suit. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. En 1967, Raymond Queneau, ayant quelques décennies durant à titre expérimental couru les rues de Paris, rassembla ses impressions urbaines en un livre de poèmes qu'il nomma précisément « Courir les rues ». M'inspirant de cet illustre exemple, ainsi que de celui de quelques autres, Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire, Jacques Reda, j'ai entrepris de marcher moi aussi poétiquement dans cette ville où j'habite depuis presque 50 ans et que je n'aime pas. John Cage disait « Si un bruit vous ennuie, écoutez-le ». Première partie. Parmi les poèmes de Courir les rues, il en est un qui se situe rue Volta. Il se termine par ces vers « Pense à là, pense à là, pense à la pile Volta ». 30 ans plus tard, voici. Rue Volta. Plus de petites échoppes anciennes aux 5 de la rue Volta, survivance électricienne que le progrès englouta. Mais en revanche, devant la porte du restaurant vietnamien au 7, discute avec le patron deux assez prospères, peut-être ressortissants de ce pays qui se nommait autrefois Haute Volta. Et je me dis, privation équatorienne que la vie compense à là, pense à là, pense à là, pense à la Haute Volta.
On efface toujours. On efface toujours. Mais il reste quelque chose comme dans la mémoire, c'est en ce sens que la mémoire n'est pas la même chose que la présence extérieure ou non du texte. Il peut y avoir par exemple des livres, ou des poèmes ou des musiques que l'on a lus ou entendus. On serait incapable d'en restituer quoi que ce soit. Mais il y a cette ombre et l'ombre de l'effet dans la mémoire, et il reste quelque chose. C'est quelque chose qui a une certaine importance émotionnelle ou intellectuelle. On ne pourrait pas la restituer, mais c'est toujours là. Le livre, où il y est ou il n'y est pas, l'objet livre. Si vous ne l'avez plus, vous ne l'avez plus. Vous n'en gardez pas le fantôme. Dans la tête, on l'a toujours. On a toujours le fantôme des choses qu'on a lues, même oubliées. L'oubli n'est jamais total.
Moi, j'ai l'impression qu'on pouvait absolument rien faire sans avoir quelque chose qui revienne en mémoire immédiatement.
Oui.
Autrement dit, c'était à la mode il y a 30 ou 40 ans de faire l'éloge de l'amnésie. C'est complètement vain, en fait.
Il n'y a pas d'amnésie totale. Il y a des écrans. Il y a des superpositions d'écrans, il y a des fumées. Mais ça reste toujours, ça continue à faire effet.
En fait, à chaque fois qu'on produit quelque chose de nouveau, on est presque dans une variation, obligatoirement.
Ça appartient plus à la théorie de la variation qu'à celle de l'anéantissement.
Enfin, c'est la variation quand ça fonctionne et c'est de la répétition quand c'est bloqué. Oui. Ouais.
Il y a dans Peut-être ou La nuit de dimanche, qui est un drôle de livre. Drôle de livre, c'est peut-être un nouveau genre, hein, non? Plutôt que dire vous faites quoi, c'est une autobiographie, c'est de la prose, c'est un roman. Non, c'est un drôle de livre.
Oui.
On comme peut dire ça
souvent, oui, c'est un brouillon.
Cette histoire de brouillon est intéressante aussi parce que finalement, à 85 ans, c'est ça? On peut le dire.
Je pense.
On peut le dire. À 85 ans, on peut se permettre enfin d'avoir le droit de faire des brouillons.
Non, c'est-à-dire, moi, j'ai fait beaucoup de brouillons, mais en général, ces brouillons-là n'arrivaient pas jusqu'à l'éditeur. Et là, comme il était un peu difficile pour moi d'amener ça à un niveau de rédaction à peu près significatif et à peu près correct. Il valait mieux que ça reste à l'état de brouillon.
Il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'il est dit tout de suite, et il y a même une certaine insistance dans le livre, on ne sait pas du tout jusqu'où l'écriture pourra aller, étant donné qu'il y a un certain nombre d'épées de Damoclès, notamment liées à la santé. On peut le dire parce que c'est pas un secret, c'est dit clairement, une suite d'opérations avec tous les risques. Donc une certaine conscience que le temps est compté, tout en sachant très bien qu'on ne peut pas compter. Enfin, je veux dire,
oui,
c'est impossible.
Il est à la fois compté et non compté.
Oui, c'est ça. pour un mathématicien, c'est intéressant.
C'est tout à fait intéressant.
Voilà. Et donc, il y a un pari dans cette affaire qui est de dire, je le fais quand même. Et il y a aussi un projet qui peut-être est un projet qui est depuis le début, mais qui apparaît maintenant de façon très claire, c'est que de toute façon, ça sera forcément achevé.
En même temps, c'est vrai, moi je suis confronté précisément quand je pense à tout ce que j'ai pu fabriquer depuis que j'essaie de fabriquer quelque chose, dans le fait que finalement je n'ai pas achevé. J'ai pas achevé. Et donc, ça cause un certain déplaisir. C'est un certain déplaisir parce que on se dit, peut-être, à un certain moment, il aurait fallu achever vraiment ce qui était en train de ne pas être achevé. Et bon, là, c'est un très bel exemple, très agréable, que comme c'était un brouillon, eh bien, il suffit à un certain moment d'arrêter de prendre le papier ou de mettre les signes sur l'écran devant soi, et puis voilà, c'est fini.
Pique-nique dans les ruines.
Là, je commence par un projet.
Octobre 2006.
Et puis ce projet, il m'occupe pendant très longtemps. Et puis à un certain moment, au moment où j'ai bien établi ce qu'il devrait être, toutes les conditions qui sont parfaites, j'ai un plan, je le regarde, et je le déchire et puis c'est fini. Alors, ce que je fais à partir de là, c'est pas exactement refaire un autre projet à partir des ruines. C'est essayer de décrire ce que c'était. Voilà. Donc, c'est peut-être plutôt de la peinture de ruine que de la ruine. Hein. C'est plutôt un travail semblable aux artistes du XVIIIe siècle, quand on s'intéresse au reste de l'Antiquité romaine.
Et même avant, parce que c'est un projet mélancolique.
On pourrait dire que il y a quelque chose qui apparente un travail, beaucoup de travaux de ce genre, à une manière de lutte contre la mélancolie, d'une certaine façon. Et à ce moment-là, les objets dont on s'occupe, ce sont des... finalement, c'est des morceaux, des ruines qui sont dans la mémoire. Donc c'est un travail à partir de la destruction de la mémoire. Donc ce que je fais moi, c'est je décris la destruction de ma propre mémoire. Parce que plus j'avance, plus ce que j'avais l'intention de faire devient vague. Et il y a plein de choses dont je ne me souviens plus. Et en particulier, j'ai énormément d'inquiétude à l'idée de me répéter, de reprendre... Quand j'ai démarré sur ce travail d'organisation d'objets de mémoire, j'avais vraiment le sentiment que je possédais cette mémoire. Et puis je me rends compte, 20 ans après, que ça a commencé à se détériorer sérieusement.
C'est-à-dire qu'on tourne en rond aussi dans les ruines.
C'est ça, tourne en rond dans les ruines, et que ces ruines, les inscriptions qui ont sur les pierres tombales ou sur les statues, elles s'effacent avec le temps. Il y a de l'érosion. Et dans la mémoire, il y a énormément d'érosion.
Je me suis plongé dans l'entreprise de destruction de ma mémoire. Je l'incendie. Et de ces débris, je charbonne le papier.
Si c'est une entreprise de mémoire, il est clair que n'importe quelle entreprise de mémoire ne peut fonctionner que parce qu'elle détruit. À mesure que j'avance, je suis en train d'effacer. On avance en effaçant. Le principe d'organisation de la mémoire qui faisait que le monde était en vous et ces images étaient ordonnées par vous s'accompagnait aussi du fait que quand vous n'aviez plus besoin de ces images, vous pouviez les mettre à l'extérieur. C'est une position très différente de celle d'avoir dans la tête des choses qui sont externes, ce qui se produit maintenant. D'une certaine façon, on est en train de préparer des têtes vides.
Des ordinateurs pleins.
Les ordinateurs pleins et les têtes vides.
composé et publié un certain nombre de livres, dont je ne sais pas exactement combien, beaucoup, mais ils sont pour moi d'une importance très variable. Et je me suis rendu compte que, en fait, un des ouvrages que j'ai mené à bien et que je considère comme étant très important dans ce que j'ai fait est totalement inaperçu. Bon, disons, j'ai publié par exemple des livres de poésie aux éditions Gallimard, de la prose aux éditions du Seuil. Donc, à la fois la publication que je fais et la réception qui en est faite dépendent quand même largement du fait que les éditions Gallimard et les éditions du Seuil sont éditions importantes. Si je publie, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois, un livre dans une maison d'édition qui n'est ni la première ni la seconde de celles que je viens de citer, la visibilité va être sérieusement affaiblie. Et j'ai un exemple d'un travail ayant conduit à un livre qui a plus de 2000 pages, que je considère comme étant un travail que j'ai fait qui est assez considérable, dont je suis assez content en fait, n'a été vu par personne. Je parle dans les gens qui parlent dans la presse ou ailleurs, dans la radio ou n'importe où ailleurs. Hein? Alors, le titre, c'est « Quasi-Christo ». Et c'est quelque chose qui est un travail sur la forme du sonnet français, disons, dans le 19e et le 20e et même le début du 21e. Alors, il se trouve que c'est un gros travail. Il contient des tas de choses. Il contient, par exemple, une détermination de la date réelle de naissance de la Laure de Pétrarque, ce qui est une chose que personne n'a réussi jusqu'à moi à déterminer. Enfin, plein de choses de ce genre, tout à fait intéressantes, et un nombre considérable de cet anthologique et explicatif. Hein. Or, ça s'est paru il n'y a pas très longtemps, mais ça n'a absolument pas été vu, tout simplement parce que ça a été publié par deux galeries d'art. La galerie Yvon Lambert et Martine Aboukaya.
Silence, alterné de carreaux et d'or. Fenêtre, échappée conditionnelle. Soir, mais si le soir, de quel jour? Le monde ne me dit pas cela. C'est un monde poussé vers le dehors, tel d'une artère vidée, pas encore, faible, ou d'une branche divergente presque plus, de peu de sève, de feuilles coupées, sèches. Moitié de lumière en similitude, chacune seule, très seule, bouche d'étain dans le soir, qui ne se décidera pas à me laisser, où que je sois, dormir.
Le premier trident. Vers 1, 5 syllabes. Vers 2, 3. Vers 3, 5 syllabes.
Parmi les thèmes qui reviennent tout le temps, il y a cette idée de la période avant l'aube. Comme si c'était, on ne pouvait pas se réveiller après le lever du soleil pendant longtemps. Est-ce que c'est ce mode de vie qui, d'après si j'en crois, parce que je veux bien croire tout ce que je lis comme étant vrai...
C'est vrai parce que c'est dit vrai. Hein, parce que,
ouais. Il y a de la triche.
Pas forcément.
Non.
Forcément, c'est pas moyen de trancher.
Voilà.
Je vous dis que c'est vrai, bon, alors vous acceptez, vous acceptez pas.
Alors disons que j'accepte.
Voilà, disons qu'on accepte.
Est-ce que c'est quelque chose de constant ou est-ce que ça bouge?
Non. Pour moi, c'est invariablement comme ça depuis que autant que je me souvienne, hein, aussi loin que je me souvienne, c'est ça. Et c'est la nuit prématinal. Oui, ça, c'est toujours comme ça. C'est le moment où je commence à... Ben, je me réveille et je commence à réfléchir. Éventuellement, avant bon, je pouvais faire des choses. Maintenant, pas beaucoup. Mais je commence à réfléchir, à essayer de me souvenir ce que, dont je me souvenais il y a très peu de temps et que j'ai oublié. Ça me prend beaucoup de temps. Ou bien essayer de penser une composition de poésie, alors qui maintenant, de toute façon, est de nature extrêmement particulière, puisque à cause de la bataille que j'ai avec la disparition presque instantanée des choses auxquelles j'ai pensé, nécessairement, presque toutes les compositions poétiques que je peux tenter aujourd'hui sont nécessairement très courtes. Et j'ai donc, heureusement, pour mon confort, disons, ce qui me reste de confort de vie, c'est conservé. J'ai inventé une forme pour ça.
Ce signe sera le pivot sur lequel tourneront les tridents.
Voilà. Qui se nomme ?
Qui se nomme le trident.
5 plus 3 plus 5 font 13, or ce nombre j'exècre.
C'est une forme très 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 courte.
C'est plus court que le haïku.
C'est plus court, ça, j'en suis très fier. En fait, c'est un peu une tricherie de dire que c'est plus court que le haïku parce que j'y mets un titre. Un titre déjà.
Ça rallonge.
Bon, et, ouais, ça rallonge. Hein. voilà. Mais c'est quand même très court.
Procédure. Renverse un tanka et de 30 et un livre 13. Procédure 2. Reverse un tanka et dans 30 et un trouve 13.
Quand j'ai trouvé cette forme, je me suis dit bah, je vais en faire 10 000. Ça va être le reste de mon travail poétique. Je vais faire 10 000. J'en suis pas là.
Solipsisme. Être unique maître d'une forme inventée par moi.
Alors, pourquoi je voulais en faire 10 000 ? Parce qu'il se trouve qu'il y a une grande anthologie de poésie japonaise qui s'appelle le Manyoshu et dont le titre disant en gros 10 000 poèmes, quoi. Grosso modo, le Manyoshu n'a pas 10 000 poèmes, mais son titre, c'est 10 000 poèmes. Bon, et il y a un auteur un des fameux auteurs du haïku japonais qui s'appelle Isha, et Isha avait l'intention de faire 10 000. Alors, on ne sait pas s'il les a fait ou s'il avait seulement cette intention, mais son œuvre conservée, en tout cas, n'est pas tellement loin que ça, puisqu'il en a 6600. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, moi, j'ai recensé là récemment parce que je me suis dit, au fond, ça fait déjà maintenant presque 20 ans, hein, on est en 2018, ça fait presque 20 ans que je cultive cette forme que j'ai inventée, et je trouve que j'en suis à pas loin de 4000. C'est pas mal, hein?
Ah bah ça fait, il faut encore vivre 30 ans pour arriver à
10 000. Comme en ce moment, j'arrive au mieux à en faire deux par jour, ça me prend énormément de temps et il faut pas que je les oublie. Je pense que c'est fichu pour cette vie-là.
Poème sans virgule. Ces quelques mots discontinuité se refermant.
C'est drôle parce qu'il y a une réduction du langage puisqu'il s'agit de faire des choses très très courtes et en même temps il y a une inflation puisqu'il s'agit d'en faire 10 000. C'est-à-dire qu'on compense en fait, on efface d'un côté, on élimine quelque chose, enfin dans l'économie, puis de l'autre côté il y a un projet monumental.
C'est vrai. Je pense que les grands compositeurs de haïku, bon, disons Basho, Isha et d'autres, ils compensaient la brièveté de la forme par la tentative de la représenter le quantitativement le plus possible. Souvent avec des variations infimes.
Écho. Pourrais-je les dire ces poèmes avec des échos?
cinquième partie, partie 5 et dernière. Une rue. Le jour s'est présenté là. Là. La lumière vient. Revient. S'en va. Où le jour s'était présenté. Là. Le temps. C'était le temps, c'était le temps, c'était le temps, c'était le temps, était le temps, le temps. Et c'était le temps, et c'était le temps, et c'était le temps, et c'était le temps, était le temps. Car ce fut le temps, ce fut le temps, ce fut le temps, ce fut le temps, qui 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 aura été 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 le temps, était le temps. Et cesser d'être le temps, et cesser d'être le temps, et cesser d'être le temps, et cesser d'être le temps de sa vie, vie. Une rue. Souffrir, vraiment souffrir, souffrir le bout de la rue et les liquides fenêtres qui dans la rue tombe, souffrir avec ses yeux, sa main appuyée à la pierre. La lumière, là. La lumière, là. Et la rue entre.
Le chemin du fabricant de mémoire de soi est plutôt montagneux. L'autobiographie est fiction et son caractère fictionnel redouble quand l'oubli progresse.
Sinon, le mot autobiographie il revient souvent. Il était déjà là du temps du grand incendie de Londres.
Oh là là, on fait plein de choses différentes, mais moi je pensais que j'ai pensé quand je me suis posé la question et puis je me suis lancé dans le petit livre que je viens de publier là où il y a plusieurs fils autobiographiques. Je pensais qu'il y avait beaucoup de manières de faire une autobiographie en fait.
En fait, ça ne marche que s'il y en a beaucoup finalement.
C'est-à-dire que je pense qu'il est impossible de s'illusionner et de penser qu'on peut en faire une. Si on en fait une, ben, elle échoue à être ce qu'elle veut être, nécessairement. Alors, on peut se rapprocher mieux de l'intention autobiographique en en faisant plusieurs à des moments différents de l'existence. Et surtout, suivant des principes différents. Et là, j'ai essayé d'en inventer un nouveau. Qui est le secret de mon livre. C'est l'hypothèse que j'ai appelée l'hypothèse du Benjamin. Voilà. Comment être un Benjamin?
L'idée d'être un Benjamin perpétuel.
Voilà, être dans des circonstances qui nécessairement changent, puisque la vie avance. Être le Benjamin dans la famille quand on est tout petit, mais ensuite être à l'école, être au lycée, être dans les groupes dans lesquels on est amené à fonctionner, hein. Qu'est-ce que ça peut être? Et est-ce qu'on peut l'être ou ne pas l'être? Est-ce que la tentative d'être le Benjamin dans telle ou telle circonstance va marcher ou ne pas marcher? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé une clé pour moi-même, avec cette hypothèse, pour, au fond, donner cette espèce d'unité dont je dis qu'en fait, elle n'existe pas réellement dans les livres que j'ai publiés, mais qui peut servir de lien pour expliquer que j'ai fait des choses finalement assez variées. J'ai fait de la poésie, j'ai fait de la mathématique, j'ai participé à une traduction de la Bible, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai fait... voilà. Et chaque fois, je suis justifié dans l'activité en question par le fait que, en faisant ça, je me trouvais dans une situation de Benjamina, disons. Voilà. à un certain moment, je change d'orientation dans mes études. C'est un des moments très importants pour ça. Et c'est-à-dire que j'étais engagé dans des études de lettres et je me mets à faire de la mathématique. Bon, et là, comment ça se manifeste ? Parce que je deviens un Benjamin dans un groupe d'élèves d'un lycée qui m'accueille comme étant le dernier. Alors, je ne suis pas le dernier. Je viens relativement tard, je suis plus âgé qu'eux, en fait. Mais je suis le Benjamin dans ce groupe, le dernier introduit dans ce groupe.
Ce n'est pas une question d'âge, donc, être Benjamin. C'est un état, c'est une attitude,
voilà,
c'est quoi ?
C'est un état, voilà.
C'est un état.
Au début, j'imagine que le point de départ, c'est comment être le Benjamin dans ma famille où nous sommes quatre enfants, alors que je ne suis pas le Benjamin réellement.
L'aîné en vrai.
Oui, parce qu'il y a un vrai Benjamin. Ce vrai Benjamin, c'est le frère que j'ai aimé et qui s'est suicidé à 20 ans et dont j'ai pensé à un certain moment qu'il était... Du moins, j'imagine que j'ai pensé à un certain moment, sans vraiment m'en rendre compte, je n'étais plus le préféré de ma mère. Et donc, quelle était la seule manière de récupérer cette situation ? C'était de devenir un Benjamin. Voilà, alors c'est l'idée. C'est pas de la psychanalyse, hein. C'est de la fantaisie, hein.
Oui, mais c'est une fantaisie.
C'est l'invention.
Il y a un lien, non, entre l'hiver, la mélancolie ?
Oui.
C'est quoi ? C'est l'envahissement du noir, hein, ou du noir et blanc ?
L'envahissement et le ralentissement. Une sorte d'immobilité, enfin d'immobilisation involontaire.
Chaque fois que je sors, dans l'hiver du souvenir, de la chambre du gel aux fleurs inverses sur la vitre. Chaque fois que je sors au présent du passé, puisque le présent est le mode essentiel de la poésie, le mien, puisque de tout poème, il faut dire « il est de maintenant », je trouve et vois la neige. Dehors est blanc. Dehors est un jardin recouvert de neige, découvert à la neige, une neige fraîchement tombée, dans le silence de la nuit. Comme une surprise de la nuit, que rien encore, aucun pas, n'a pu brouiller, défricher, vieillir.
Le suicide du petit frère, du jeune frère, qui était d'ailleurs un ami du même âge que Pérec, hein, si je me souviens bien, est quand même un déclic fondamental. C'est quelque chose qui revient comme une... Ça n'explique rien et il ne s'agit pas de chercher des explications. Et j'avais lu quelque part, ça c'est dans ma mémoire, qui n'est peut-être pas encore qu'un souvenir, mais on va voir si c'est vrai ou pas, qu'il y avait cette idée de l'aquabonisme, c'est-à-dire qu'au fond c'était cette lutte contre la mélancolie qui a amené à l'écriture. Il fallait qu'il y ait quelque chose de profondément qui amène très 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 loin, au plus loin, la mélancolie pour enfin pouvoir réagir. Et cette réaction, c'est l'écriture.
Oui, parce qu'il y a une manière simple de désigner la situation mélancolique qui va éventuellement amener au suicide, c'est le « à quoi bon ?». Et l'à quoi bon, c'est une chose, et c'est l'à quoi bon local qui dit « pas faire ça parce que à quoi bon ?». Et ensuite, c'est l'à quoi bon généralisé. L'à quoi bon généralisé, et c'est le dernier pas en direction du suicide.
Ça, c'est quelque chose qui ne traverse pas toute cette œuvre.
Non.
Elle lutte contre ça.
Oui.
Et la tentation, elle a eu lieu ou pas ?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Dans la couleur inatteignable. Dans l'attente inatteignable. De la couleur. De la ligne qui fraye. Le visage. Soit le gel blanc, le gel noir, la tente d'argent, de l'œil de sel d'argent, platine, sépia, le battement des mouettes du blanc et du noir, la ligne fumant de la lumière, terreur, écrite à la lumière, s'arrête, exact, là, où tu deviens noir.
Pleut. 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 Rue des Jeuneurs, rue du Zest, rue Méhul. Pleut. Rue des Vertus, rue Eugène Spuller. Pleut. Rue Budet, rue de Turenne, rue de Lutèce. Pleut. Pleut. Rue de Chevreuse, rue de Fleurus. Rue de Furstenberg, rue Suger. Pleut. Pleut. Rue Euler, rue Greffuhl, rue de Turenne. Pleut. Rue Bleue, rue de Bruxelles, rue de Cheverus, rue Dupéré, rue Jules Lefebvre. Pleut. Rue de Balzance, rue de Dunkerque. Pleut. Rue des Bluets, rue Breguet, rue Chevreul, rue Jules Verne. Pleut. Rue Ernest Lefébure, rue Le Peu, pleut. Pleut. Rue Queferre, rue Lebrun, rue Rubens, pleut. Rue de l'Eure, rue Férus, pleut. Rue des Entrepreneurs, rue Gutenberg, rue Juge, rue Jules Dupré, rue Plumet, rue Chute-Saint-Berger, pleut. Rue du Ré, rue Greuze, rue de Lubeck, pleut. Rue Brunel, pleut. Rue du M, rue Eugène Sue, rue Puget, rue de Suez, pleut. Rue de Bellevue, rue de Le Seux, rue des Dunes, rue de l'Équerre, rue du Tunnel, pleut. Rue Jules Chéré, rue Schubert, rue de Terre-Neuve, pleut, pleut.
À la recherche de Jacques Roubaud, par Christian Rosset.
Marc, au dernier moment, ponctuer les vers en retard.
Avec Jacques Roubaud. Enregistré le 16 février 1993. Atelier de création radiophonique, La Vitre. Le 23 avril 1998. Les Poétiques, au Théâtre du Rond-Point. En octobre 2006, surpris par la nuit, pique-nique dans les ruines. Et le 20 mars 2018. Poème et prose de Jacques Roubaud, lu par Marie-Louise Chapelle, Kay Mortley, Jean-Marie Patt et l'auteur. Attaché d'émission, Chouchane Jargaillan, coordination Irène Omelianenko. Groupe de réalisation, Claude Nior, Pierrick Charles, Lionel Quentin.
Vous pouvez réécouter à vie ou podcaster un an sur notre site cette émission. Demain, dans Création On Air, Hélène Delprat, avec « Je vous écrirai après votre mort » qui s'adresse à celle qui a vécu une enfance rebelle dans des châteaux ou des demeures austères, une enfance de gosse de riche, comme elle disait, une enfance de Rothschild. Nicole Stéphane. Et tout de suite, Philippe Garbi vous entraîne dans les nuits de France Culture.